Bien, les amis, on va, dans la dernière ligne droite, on va mettre le turbo. Je suis conscient que là, vous avez rentabilisé l'aller et le retour. Hein. Maintenant, c'est du bonus. Hein. Mais bon. Alors, on en arrive à la section chapitre 7, versets 13 à 27. Et je suggère de donner comme titre « L'engagement et la consécration du chrétien, une question de cohérence ». Alors, Jésus a parlé du royaume. Moi, j'aime beaucoup... Il y a une chose dont j'ai horreur, c'est d'entrer dans un restaurant et pas savoir combien je vais devoir payer avant de sortir. Bon, par la porte, hein, pas par la fenêtre. Moi, j'aime bien quand les choses sont claires. Et moi, ce que j'aime chez Jésus, c'est que il donne l'enseignement et puis après, il va lancer un appel. Et il va demander à ceux qui sont d'accord d'écrire bon pour accord et de signer. Mais en toute connaissance de cause. Et ça, je trouve que c'est clean, c'est honnête. Et Jésus n'a jamais cherché à cacher la vérité. Il n'a jamais tordu le bras à qui que ce soit pour qu'il le suive. On peut dire que Dieu a toujours été et est toujours le premier défenseur des droits de l'homme. Le premier droit de l'homiste. Il respecte la liberté de l'être humain et il ne contraint nullement qui que ce soit. Alors, dans ces versets, il est question de l'engagement du chrétien. Jésus a parlé du royaume et maintenant, il va dire la consécration ou l'engagement, c'est une question de choix personnel. Et il va dire qu'il y a deux portes. Il y a une porte étroite, une porte très large, d'un accès facile, et à vous de choisir. Deuxièmement, il va dire que l'appartenance au Seigneur, c'est une question de fruits, dans les versets 15 à 20. Et il va montrer le contraste qui existe entre les vrais et les faux prophètes. Et c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Ça rejoint ce qu'on disait ce matin, non, faire la différence, la distinction entre la contrefaçon et l'authenticité. Parce que tout ce qui brille n'est pas or. Ensuite, dans les versets 21 à 23, Jésus va souligner le drame d'un chrétien qui a le cœur partagé. Et c'est un gros problème d'incohérence. Des gens qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas, qui ne pratiquent, qui cohabitent en vivant dans le péché. Et puis, Jésus va clôturer son discours dans les versets 24 à 27, en parlant de la parabole du sage et de l'insensé qui a bâti sur le sable. Le chrétien est la volonté de Dieu, une question d'obéissance. Et au final, c'est la question ultime, finalement, qu'on a déjà résumée quand Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous ordonne ?» Alors, au verset 13, donc, Jésus dit « Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte et facile la route qui mène à la perdition, nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Donc là, Jésus place ses auditeurs devant leurs responsabilités, et ils sont confrontés à un choix. Et ça, il n'y a rien de nouveau. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, rappelez-vous, Deutéronome 30, versets 15 à 20, Dieu dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. » La balle, elle est dans le camp. Et donc, la consécration personnelle, c'est le fait de s'engager, de mouiller le maillot, de prendre position. Et le choix, il est entre deux possibilités. Alors, il y a deux portes, deux destinations, deux catégories de personnes et la nécessité de faire le bon choix. Alors, quand Jésus dit « entrer par la porte étroite », c'est un appel à la repentance. Tourner le dos à sa manière de vivre sans Dieu et marcher dans le sens de la volonté de Dieu. La repentance, c'est le point de départ de toute vie chrétienne authentique, incontournable. La repentance et la foi qui sauve dans l'Écriture sont indissociables. Le fait d'entrer par cette porte étroite qui est la repentance m'amène sur un sentier resserré. Alors, on est en plein dans le voyage du pèlerin. Ceux qui connaissent, c'est très bien imagé dans le livre, en tout cas, je n'ai pas vu le film, mais tant que le pèlerin reste sur le chemin étroit de la sanctification, eh bien, il ne craint rien. Les bêtes sauvages, de part et d'autre, ne peuvent pas l'atteindre. Et l'image, elle est très, très juste et très belle. Et donc, ce chemin resserré de la sanctification mène à la vie éternelle, tandis que la porte d'entrée est large, facile, où il y a beaucoup de monde, et plus on est de fous, plus on rit, hein, eh bien, ça débouche sur ce chemin facile, fait de plaisir et d'insouciance, où on règle Dieu de la carte, mais au final, ça nous mène dans la séparation éternelle avec Dieu. Voilà, c'est important de choisir la bonne porte, et ça porte à de grandes conséquences, d'où la nécessité de faire le bon choix. Et puis, Jésus va donc parler de la nécessité de porter du fruit qui atteste la qualité de l'arbre. Verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est pas plus compliqué que ça, c'est d'une simplicité. Alors Jésus nous dit que dans ce texte, le fruit constitue la marque d'authenticité. Et il nous met en garde contre le risque de la contrefaçon. On retrouve cette thématique, la dangerosité de la contrefaçon dans les épîtres de Paul, les faux docteurs, les faux prophètes. Bon, ben, les jardiniers savent tous que dans le jardin, la mauvaise herbe pousse bien plus facilement que les légumes. Et si on n'y prend pas garde, eh bien, la mauvaise herbe finit par envahir les légumes que l'on veut voir pousser. Il faut faire preuve de discernement et se protéger de la dangerosité ou de la toxicité des faux prophètes et des faux docteurs. On vit à une époque où on met beaucoup l'accent sur les émotions, le ressenti, le sentiment, et on nous dit « Oh là là, la théologie, c'est... » Non, 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 c'est important la théologie. Et on ne peut pas dire oui et amen à n'importe quel courant de pensée qui est déviant. Jésus va nous montrer la subtilité trompeuse des faux prophètes qui ont des apparences d'agneaux, mais au fond ce sont des loups féroces, voraces. Il en appelle à notre capacité de discerner, et il faut regarder le fruit que porte l'arbre, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et il nous dit bien que l'arbre produit un fruit conforme à sa nature. Dans les fin du verset 16 jusqu'au verset 18. Si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Un arbre mauvais ne peut pas apporter de bons fruits. Voilà, c'est l'enfance de l'art. Et puis au verset 19, si l'arbre est mauvais, eh bien, il sera coupé et jeté au feu. Voilà. Donc, et l'Écriture nous rappelle toujours que les faux prophètes seront sévèrement condamnés et jugés. Alors, maintenant, Jésus va parler dans les versets suivants, 21 à 23, du drame d'un chrétien partagé, et il va dire que c'est un problème d'incohérence. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il y a des gens qui ont le langage évangéliquement consacré, hein, qui connaissent des chants chrétiens, qui connaissent les formules chrétiennes, mais ça ne fait pas tout. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Au jour du jugement, nombreux, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Ça fait froid dans le dos, hein, ces paroles. Des gens Je me souviens quand on faisait de l'évangélisation dans la France profonde, parfois les gens nous disaient « Ah mais attendez, vous me demandez si je suis chrétien, mais dans ma famille, j'ai un curé et deux bonnes sœurs. » Alors quand même, vous savez, c'était comme le paratonnerre au sommet du clocher de l'église qui couvrait tout le village, là. Et le village ne craignait rien de la foudre. Non. Il y a bien des gens qui pensent qu'au jour du jugement, Dieu va distribuer un questionnaire, style sécurité sociale, avec plein de... Et le défi, ce sera de mettre des croix dans les bonnes cases. Et il y a des gens qui pensent que Dieu va demander « Étais-tu catholique romain ? Étais-tu bouddhiste ? Étais-tu musulman ? Étais-tu évangélique ? Étais-tu... » Voilà. Non, c'est pas la question que Dieu va poser à chaque être humain quand il devra comparaître en jugement. La question qui tue, c'est « As-tu, oui ou non, pratiqué ma volonté ?» Point barre. Pas plus compliqué que ça. « As-tu, oui ou non, pratiqué ma volonté ?» Et ça fait froid dans le dos parce que dans ses paroles, Jésus dit que il est possible d'avoir fait des choses qu'un véritable enfant de Dieu, un vrai prophète ou un docteur de la loi pourrait faire. Prophétiser, parler de la part de Dieu, chasser des démons, guérir des malades. Jésus n'est pas en train de dire que tous les gens qui chassent des démons sont des charlatans, mais comme toujours, il y a un don authentique d'exorcisme, et puis il y a la contrefaçon, la mauvaise herbe qui pousse dans le jardin. Il est possible de faire toutes ces choses tout en vivant dans le péché jusqu'au cou. La cohabitation, hein, je disais hier, on a connu, on a donné nous en France, hein, un président d'un bord politique et puis un premier ministre de l'autre. Je t'aime, moi non plus, hein. Bonjour les embrouilles, et heureusement que tout n'est pas enregistré, mais enfin ils ne font pas de cadeaux, et parfois même devant médias interposés, ils lavent leur linge sale devant la nation. Bon, bah bonjour l'ambiance, ou plutôt au revoir l'harmonie. Le drame, c'est que... c'est ça le drame. Des paroles creuses des chrétiens de nous. Alors Jésus dit que les paroles ne suffisent pas pour entrer au ciel. C'est pas ceux qui ont le vocabulaire consacré, Seigneur, Seigneur. Et il y a des gens qui ont le mot Seigneur à la bouche du matin au soir et du soir au matin, et qui sont les pires mécréants que la planète peut porter. Alors Jésus nous montre que l'exercice des charismes ne suffit pas, ça ne constitue pas un label d'authenticité en soi. Attention, un train peut en cacher un autre. Et à bon entendeur, salut. Et puis, Jésus montre que c'est la pratique du péché qui barre l'accès au royaume. Alors, vous savez, en France, pendant longtemps, on parlait pas souvent des évangéliques. Bon, on entendait parler des évangélistes, mais maintenant on a compris, il faut dire des évangéliques. Alors, quand il y a une brebis galeuse qui fait ce qu'il fallait surtout pas faire, alors là, je peux vous dire, dans les médias, ça éclabousse tout le quartier, hein, et on va monter ça en épingle. Quelqu'un qui a piqué dans la caisse, ou qui a couché avec la secrétaire, ou qui a détourné toutes sortes de biens, etc., etc. Alors là, on charge la barque et on casse du sucre sur le dos des évangéliques. Malheureusement, il est possible d'avoir telle ou telle étiquette. Vous savez, ce qui compte, c'est ce qui est derrière l'étiquette, hein. Parce que l'étiquette, tout le monde peut coller une bonne étiquette sur son front, mais l'habit ne fait pas le moine. Au final, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu qui conditionne notre entrée dans le royaume de Dieu. Jésus a déjà dit dans Matthieu 5 que le plus grand dans le royaume, c'est celui qui se conforme, qui met sa vie en conformité avec les exigences de la volonté de Dieu. Le plus petit, c'est celui qui en prend et qui en laisse, qui choisit ce qui l'arrange et qui laisse ce qui le dérange. Donc, l'obéissance à la volonté de Dieu conditionne l'entrée dans le royaume de Dieu. Et puis, maintenant, ça va être l'heure de conclure. Et Jésus va lancer son appel et il va prononcer cette fameuse parabole du fou et du sage. Alors, on l'a dit en introduction hier matin, dans Matthieu, on a la version longue, Matthieu 5, 6, 7. Luc, c'est une version qui représente un tiers de la version longue. Alors Jésus était un prédicateur itinérant. Il est probable qu'il n'a pas prêché d'un seul trait d'un seul Matthieu 5 à 7 en une seule fois, parce que vous voyez déjà ce que ça fait sur les troupes, hein. Faut plusieurs tasses de café pour encaisser tout cet enseignement. Matthieu, pour les raisons éditoriales qui sont les siennes, il a organisé sa matière d'un point de vue littéraire et voilà, conduit par l'Esprit de Dieu, nous a livré le Sermon sur la montagne. Vous avez remarqué la densité, la richesse, la puissance du contenu de cet enseignement très dense. Mais Jésus, avec beaucoup de pédagogie, à la fin, eh bien, il va lancer un appel. Il a dit, voilà, moi je vous ai parlé de c'est quoi vivre à la hauteur de la volonté de Dieu, comment plaire à Dieu. Maintenant la balle, elle est dans votre camp. Vous m'avez écouté, dit Jésus, vous m'avez entendu. Eh bien maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous avez entendu? Parce que finalement, quand le prédicateur a fini de prêcher, ben, on n'est qu'à la moitié du guet. La balle, elle est dans le camp des auditeurs. Ça me rappelle, il y avait un roi dans l'Ancien Testament. Le prophète Jérémie avait envoyé son secrétaire lire la prophétie. Et c'était dans un palais d'hiver. Et il y avait un brasero qui réchauffait la pièce. Et à chaque colonne de parchemin que le secrétaire du prophète Jérémie avait lu, Baruch, eh bien, le roi, il prenait son canif, couteau suisse, et il découpait une partie du parchemin, puis il la mettait au feu. Et au final, eh bien, toute la prophétie de Jérémie, elle est passée à la trappe, au feu. Ça, c'est l'exemple du fou qui a bâti sur le sable. Alors voilà, c'est pourquoi, verset 24, celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Alors, on trouve au moins 4 points communs entre tous ces auditeurs. Les gens ont assisté à la même réunion. Ils ont tous choisi de construire une maison. Ils ont choisi leurs matériaux. Une fois la maison construite, le point commun, c'est qu'il y a eu des inondations, il y a eu des ouragans, et c'était la même chose pour tout le monde. Et ça, c'est le point commun. Maintenant, il y a une grosse différence, c'est que certains qui avaient construit sur le roc, eh bien, la maison, elle a tenu, et les autres, je vous renvoie au classique, hein, c'est les trois petits cochons, hein, chez Walt Disney. Ceux qui ont construit sur le sable, eh bien, la maison s'est écroulée comme un château de cartes. Il y a des gens qui entendent le même message de l'Évangile, mais qui ne vont pas réagir de la même manière. Il y a des gens qui viennent à l'Église, qui entendent la parole de Dieu. Certains vont repartir chez eux de la même manière qu'ils sont venus. Comme on entend dire parfois, c'est entré par ici, c'est sorti par là. Bon, faut de bons yeux pour voir, mais enfin, c'est une façon de parler. Ou c'est comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est étanche et on ressort... On baisse le rideau et voilà. Moi, j'admire l'honnêteté et la pédagogie du Seigneur. Bien sûr, il nous demande d'écrire au bas de la page « Bon pour accord » et de signer et d'en prendre jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais au moins, c'est en toute connaissance de cause. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de... Vous savez, parfois dans les offres pour un abonnement téléphonique ou je ne sais quoi, il y a toujours des choses d'appel, vous voyez, en gros caractères là. Et puis, mais il y a toujours des conditions particulières et avec une astérisque, c'est écrit en tout petit, il faut sortir une loupe électronique pour pouvoir prendre connaissance des conditions. Non mais on nous prend pour quoi? Bon. avec Jésus, on n'a pas ce problème-là. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est clean. Et Jésus a dit, ben voilà, maintenant, mes amis, moi, j'ai fait mon travail. On n'est qu'à la moitié du guet. Maintenant, la balle, elle est dans votre camp. C'est à vous de voir ce que vous devez en faire. Alors, l'évangéliste Matthieu conclut et par ses paroles en nous disant que quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement, car il parlait avec une autorité que n'avait pas leur spécialiste de la loi. Les gens étaient scotchés. Ils étaient vraiment... Ils n'avaient jamais entendu quelqu'un parler avec une telle autorité spirituelle, parce que Jésus était authentique. Et bien sûr que Jésus incarnait la vérité. La vérité à l'état pur. Et les gens avaient bien compris que entre ce que Jésus enseignait et ce qu'il vivait, il n'y avait pas un décalage. Il était crédible. Et c'est ça qui faisait son autorité spirituelle. Et il ne pouvait pas laisser les gens indifférents. Deuxièmement, on voit que la vérité exerce un impact positif. Matthieu dit, les foules étaient impressionnées par son enseignement. Le terme rendu par impressionné, mais les gens étaient mais ils étaient assis par terre. C'était comme s'ils avaient pris un coup de bâton derrière la nuque. Et franchement, il y a un avant, il y a un après. On ne peut pas rester indifférent face à un tel enseignement. Et ça vous oblige à réagir. Et puis, entre parenthèses, Matthieu égratigne au passage le christianisme des pharisiens et des religieux dont le christianisme avait perdu de leur pouvoir salant ou éclairant. Ils n'étaient pas la lumière du monde ni le sel de la terre, et les auditeurs ont bien vu la différence, parce que Jésus il était crédible, il était lisible, il était il exerçait un impact sur ses auditeurs. Et puis c'est clair que l'auditeur a la responsabilité de répondre. Pas de manipulation, c'est vraiment clean. Et je crois que ça, c'est un modèle dans le ministère spirituel. Alors, donc les foules étaient impressionnées par son enseignement. Il parlait avec une autorité que n'avait pas leur spécialiste de la loi. Mais la question, elle reste, on n'a pas tous les détails, comment les gens ont réagi. Alors, il y en a manifestement qui sont partis chez eux. Il y en a qui ont peut-être dit, ouais, Jésus, il parle bien, hein, il dit des choses intéressantes. J'ai entendu l'histoire d'un couple qui était venu à une réunion, et à la fin, eh bien, le mari était sorti en premier. Il a remercié le pasteur. Il a dit, merci pasteur pour ce que vous avez dit, j'étais content que ma femme elle entende le message. Et puis 10 minutes après, la femme elle arrive, elle dit, pasteur, vraiment le Saint-Esprit vous a conduit, hein, parce que si mon mari n'a pas compris sur ce coup-là, ben vraiment c'est qu'il est bouché, hein. C'est manifestement pas la meilleure stratégie. Voilà, christianisme, plaidoyer pour un christianisme cohérent. C'est du lourd, il y a du contenu, l'enseignement est gratuit, mais on se donne la main, c'est la mise en pratique qui coûte cher. Le but de tout cela, c'est que Dieu soit glorifié, c'est que l'Église soit visitée, c'est que le nom de Jésus soit proclamé. Et moi, je suis convaincu que quand on prend connaissance du projet de Dieu, je veux dire, on ne peut que signer et dire oui, moi, c'est pour moi, c'est ça que je veux, parce qu'on a la qualité pour laquelle on est prêt à payer. Alors, ne baissons pas la barre, ne baissons pas le niveau, ça vaut la peine. C'est pas mission impossible. On a bien dit au début, Jésus ne prêche pas pour des chrétiens de première classe ou qui veulent être en business class. Non, c'est pour le chrétien normal, c'est la vie chrétienne normale, et pour l'Église ordinaire, avec des chrétiens ordinaires comme moi, comme vous. Et donc, que Dieu nous fasse grâce. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais rendre le micro à qui de droit, qui va conclure comme il se doit. En tout cas, merci pour votre attention. J'ai eu plaisir à vivre ce temps avec vous, et je vous souhaite la riche bénédiction du Seigneur. Amen. Amen.